IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Et nous avons aussi dans nos studios Steven, stagiaire pour la semaine chez IDFM Radio. Bonjour Steven. Merci pour votre fidélité à notre média et nos émissions et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct, l'émission qui décrypte les enjeux économiques à travers le prisme de ceux qui les vivent et les transforment. Et si l'économie se construisait à la croisée de trois univers, en apparence éloignés ? Aujourd'hui, vendredi 31 octobre 2025, rencontre avec une gouverneure du Rotary International, spécialiste de la résolution des conflits et de la paix dans les entreprises, un préparateur mental qui transforme le stress des entrepreneurs en levier de performance et un conteur président d'une maison d'édition, gardien de la langue et de la transmission. Trois voies, trois missions. La première pacifie les organisations, le deuxième rééquilibre les esprits et le troisième préserve notre patrimoine linguistique. Mais au fond, ne parlent-ils pas tous d'un même enjeu, celui de réconcilier l'humain avec ses défis, qu'ils soient économiques, sociaux ou culturels ? Et pour en parler, j'accueille Nada Ghanem, fondatrice associée et directrice générale depuis 2008 du cabinet International Academy for Innovating Coaching, past gouverneur du Rotary Club, district 1660. Bonjour Nada.
Bonjour Jacqueline, merci, merci de m'accueillir.
Merci d'être parmi nous ce matin. À vos côtés, Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance. Jean-Christophe, vous êtes l'auteur d'un ouvrage « La performance d'une vie », un témoignage et un guide précieux pour donner le meilleur de soi-même. Et j'avais eu l'occasion de vous accueillir à ce sujet. Merci d'être avec nous aujourd'hui à nouveau.
Merci pour l'invitation.
Et à vos côtés, Lionel Brochmann, alias Tsvika, président des éditions Compte Goutte et compteur professionnel depuis près de 50 ans. Mais alors, il faudra que je donne l'orthographe de Compte Goutte parce que ce n'est pas du tout celle à laquelle on pense quand on l'entend.
Non, pas du tout. C'est un jeu de mots entre compte et goûter. C'est de ça. 4 heures. On se bagarre pour avoir un joli jeu de mots et on nous met deux T partout.
C'est ça, mais on va l'épeler tout à l'heure. Bonjour Lionel.
Bonjour, enchanté.
Bienvenue dans cet échange où management, santé mentale et transmission se rencontrent, peut-être pour la première fois. Bienvenue et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
IDFM Radio, 98 FM.
Et pour commencer, je m'adresse à vous, Nada Ghanem. Donc, je rappelle, fondatrice associée, directrice générale depuis 2008 du cabinet international Academy for Innovating Coaching. Votre parcours, Nada, est marqué par votre expertise dans le domaine d'un coaching basé sur la systémique, une approche originale et prometteuse dans de nombreux domaines que nous avions eu le plaisir de découvrir en avril 2022, ça passe, lors de votre première venue chez IDFM Radio. Et nous avions découvert à ce moment-là également, bien que ce ne fût pas le sujet, que vous étiez alors membre du Rotary et vice-gouverneur de votre district. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours chef d'entreprise, mais vous êtes première femme gouverneur, vous avez été première femme gouverneur 2024-2025 du Rotary District 1660 et vous avez souhaité cette fois nous en dire plus sur ce club service donc qu'est le Rotary. Donc rappelez-nous en préambule ce qu'est le Rotary International.
Merci beaucoup de cette introduction. Je voulais juste préciser que j'étais pas vice-gouverneur, mais j'étais gouverneur nommé. Donc ça, c'est un jargon rotarien.
D'accord.
Et puis, je suis la cinquième femme gouverneur dans notre district, avec un peu espacé entre les unes et les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rotary? Le Rotary international, le Rotary est toujours couplé avec le mot international, parce que nous sommes un réseau de professionnels philanthropes, tous au service de la communauté, et nous agissons partout dans le monde. Nous sommes à peu près 1 200 000 adhérents au Rotary International, et nous sommes vraiment mus par le critère de 4 questions qui sont un peu nos valeurs et qui sont inspirées de des passoires de Socrate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fidèle à l'amitié? Est-ce que c'est loyal? Et est-ce que c'est dans l'intérêt de la communauté? Donc ça, ce sont les critères de 4 questions qu'on se pose à chaque fois qu'on voudrait agir dans la communauté. Nous défendons 7 causes stratégiques qui sont la paix et la prévention, la résolution des conflits, prévention et traitement des maladies, accès à l'eau potable, santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation, le développement économique et local et l'environnement. Et donc nous sommes un peu partout, et là notre axe majeur vraiment c'est le développement de la paix un peu partout dans le monde. Et il faut savoir que nous sommes un mouvement qui est apolitique, areligieux, et nous restons vraiment à l'écart de tout ça pour pouvoir œuvrer dans la cité aussi bien localement que sur le plan international d'une manière très très libre. Et l'année dernière, j'ai eu la grande chance d'être gouverneur de mon district de 1660 qui regroupe 82 clubs, à peu près 2000 adhérents, et tous animés par la même passion et le même slogan, servir d'abord.
Très bien, merci Nada. Quand a été créé le Rotary?
Alors le Rotary International a été créé en 1905, et notre district a été créé il y a 100 ans maintenant. Donc nous sommes un petit peu aussi parmi les premiers districts à être créés dans le monde.
Donc un mouvement qui a vu le jour aux États-Unis.
Absolument, avec le père fondateur, si je peux l'appeler comme ça, Paul Harris, qui un jour s'est réuni avec des amis avocats, commerçants, autour d'une table ronde. C'est pour ça que notre symbole, c'est la roue du Rotary, autour d'une table ronde, où ils ont passé un bon moment entre amis, et ils se sont dit pourquoi ne pas créer un club pour être au service du monde et au service de la communauté. Et c'est comme ça que le premier club a été créé. Et petit à petit, ça a été propagé. Et la roue du Rotary nous indique aussi que la roue tourne, c'est-à-dire que nous avons un système de gouvernance qui est complètement novateur, qui n'existe nulle part dans le monde, même pas dans les entreprises. Nous sommes gouverneurs pour 1 an.
Donc ça, nous sommes toutes les instances se sont nommées pour 1 an, je crois.
Exactement. Toutes les instances pour 1 an, justement pour nous permettre un peu de nous renouveler, en sachant que nous nous préparons pendant 3 ans en avant, et puis on continue bien sûr à être actifs après. Mais notre année de gouvernance dure 1 an, justement pour permettre à un plus grand nombre aussi d'exercer cette fonction, et permettre à un plus grand nombre aussi de connaître la gouvernance, et d'autant plus que la colonne vertébrale aussi d'une gouvernance au Rotary International, c'est comment développe-t-on notre leadership dans l'éthique rotarienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les critères de 4, qui est le critère des 4 questions.
4 questions, oui. Le critère des 4 questions qui intervient lorsque vous, lorsque vous intronisez un nouveau membre, il y a une petite cérémonie, et donc cette personne doit être mise au courant de ces 4 questions.
Absolument. Donc nous avons une cérémonie bien sûr d'accueil des nouveaux adhérents. Ça fonctionne en principe par cooptation, et si ce n'est pas par cooptation, évidemment il y a toujours un genre on l'accueille plusieurs fois dans un club pour justement savoir vraiment l'intérêt qu'il porte à adhérer au Rotary, parce que en sachant que adhérer au Rotary, c'est en premier lieu c'est servir et non pas se servir,
c'est
donc ça, on le
c'est
dit
important.
Souvent en plaisantant, mais ça porte tout son sens, et justement au moment de la cérémonie on prononce le critère des quatre questions. On rappelle que notre fondateur, c'est Paul Harris. Et puis, on rappelle aussi que nous avons des présidents internationaux. Et la personne, on lui remet la roue du Rotary que je porte aussi aujourd'hui, qui est un symbole aussi de reconnaissance entre
Bien
nous,
sûr.
Un peu partout dans le monde. Et qui permet aussi de quand on voyage dans le monde, de dire, ben voilà, je suis là, je viens vous rendre visite. Comment on peut faire ensemble et comment on peut interagir ensemble et construire des actions et mettre en place des actions.
C'est ça. Ça peut même être, je pense, à l'étranger, une source d'entraide, hein, selon une situation peut-être un petit peu difficile ou, enfin voilà, le fait d'être rotarien oui. permet cela.
Oui, il faut savoir que le Rotary n'existe pas sans sa fondation. Mmh. Et c'est vrai que la fondation Rotary nous permet de lever des fonds, justement, grâce aux Rotariens, grâce aux actions rotariennes sur le terrain, justement pour permettre de venir en aide à ceux qui ont le plus besoin. On monte ce qu'on appelle des Global Grants et la fondation Rotary abonde en fonction des projets que nous réalisons. Donc nous avons trois choses qui sont vraiment importantes. Deux choses qui sont importantes, c'est la fondation Rotary et puis depuis 30 ans maintenant, si je ne me trompe pas, nous défendons une cause tous ensemble, les 1 200 000 membres, c'est l'éradication de la polio.
Oui.
Et il y avait aussi la fête l'éradication de la polio le 24 octobre dernier. Et donc tous les clubs s'évertuent de créer des actions pour justement lever des fonds et mettre dans cette caisse commune pour éradiquer la polio.
Oui, dont je crois savoir que elle était pratiquement éradiquée hein, il y a encore quelques années, mais il échappe aux chiffres des cas isolés dans certains pays sous-développés.
Exactement. Mmh. Pas que. Il y a 2 ans à peu près, nous avons trouvé des cas en Angleterre et nous essayons et nous continuons cette action d'éradication de la polio, même s'il y a encore peut-être 1%, 2% de polio dans le monde. Mais c'est parce que si plus quand on continue les efforts, on essaye dans la durée de maintenir l'éradication. Donc c'est un projet qui continue, un projet commun pour tous les Rotariens du monde.
Merci Nada. Nada, je propose qu'on fasse un peu de place à la musique avec Céline Dion et sa magnifique interprétation « Une chanteuse populaire » avant de reprendre cet échange passionnant. À tout de suite.
Merci. Je suis une fille bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je ferai de la musique autour d'un verre avec ma mère, mes sœurs, mes frères. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis une chanteuse populaire. Vous me voyez comme une déesse. Je suis une femme, pas une princesse. Si je peux vous faire un aveu, c'est quand je chante que je me sens mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Un jour, quand je serai trop lasse, je songerai à céder ma place. Je ferai mes adieux avec classe. J'espère vous laisser une trace et graver à vie dans vos cœurs que de l'amour et du bonheur. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal de la critique.
critique. Quand je chante, c'est pour le public. Je suis pas un animal de cirque. Ma vie à moi, c'est la musique.
C'est l'économie en direct sur EDFM Radio et après cette belle parenthèse musicale, on revient à notre sujet du jour. Comment concilier performance, paix et transmission en compagnie de Nada Ghanem, fondatrice associée et directrice générale depuis 2008 du cabinet International Academy for Innovating Coaching, past gouverneur du Rotary Club District 1660, Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, Lionel Brochman, alias Zvika, président des éditions Compte-Gouttes. Alors Nada, donc merci pour cette présentation du Rotary. Je voudrais revenir aussi sur le fait que les femmes font partie maintenant du Rotary. Ce n'était pas le cas à l'origine, mais voilà, il y a eu un mouvement féminin aux États-Unis qui a contesté, je crois, le fait que ce n'était pas mixte.
Tout à fait. Si je me souviens bien, donc c'est dans les années 80 que les femmes ont eu droit à intégrer le Rotary, et depuis on continue vraiment à être présente en grand nombre. Il faut savoir que nous sommes 30% dans le monde de femmes, donc il y a encore de la marge pour pour arriver à l'équilibre. Cela étant, être femme au Rotary, c'est on y trouve sa place pleinement, parce que le Rotary aussi défend la DEI, donc diversité, équité, inclusion, et on a vraiment, pour nous c'est quelque chose qui est très très important, de travailler sur la non-discrimination, la diversité, l'internationalité, l'interculturel. Donc c'est la spécificité de notre mouvement.
Et donc vous, en tant que femme, vous êtes, je pense que vous plaisez hein, au Rotary, et donc vous avez suivi le parcours un petit peu entre guillemets normal d'un Rotarien, d'une Rotarienne, et donc vous êtes retrouvée gouverneur l'année dernière. Il y en a peu de femmes gouverneurs au Rotary, vous nous l'avez dit, vous êtes la cinquième femme en France.
Cinquième femme dans notre district.
Dans votre district.
Et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreuses dans les autres districts non plus à prendre le gouvernorat, parce qu'il faut savoir que c'est un travail, je dis bien travail, parce que même si c'est du bénévolat, c'est un travail qui est très très, qui prend énormément de temps, et avec mon activité, c'était pas évident, mais je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Donc oui, la femme, elle a pleinement sa place. Je dirais que on se bat pas pour trouver sa place, mais il faut la trouver. Donc ça, c'est très important au Rotary international. Et puis, on la trouve pleinement. Juste à titre indicatif, notre présidente internationale, donc j'étais gouverneure en même temps qu'une présidente, et c'est la deuxième femme dans le monde depuis 1905.
Ah,
donc,
oui.
Pour vous dire que, voilà, c'est pas...
Il y a encore du boulot, quand même.
Il y a encore du travail. Mais voilà, on est là, et j'étais vraiment très contente d'avoir fait cette année sous le sceau de la paix, et la paix positive, qui prône le fait que l'absence de guerre ne veut pas dire qu'il n'y a pas, qu'on a la paix. Donc il faut être vraiment très très vigilant, et ça c'est vraiment le concept de la paix positive. Donc j'ai construit mon année. Il faut savoir que nous on travaille sur un plan triennal, donc c'est avec les passés gouverneurs, les passés gouverneurs et le gouverneur actuel. Nous travaillons sur le même principe de la paix, le leadership et la paix, et c'était le point le plus important de mon gouvernorat, avec, bien sûr, j'ai eu énormément de chance l'année dernière, puisque c'était les Jeux Olympiques. Une des actions majeures de ce gouvernorat, de l'année de mon gouvernorat, c'était de monter avec les clubs, parce qu'il faut savoir que le district n'existe pas sans l'existence des clubs. On est vraiment, je tiens à le dire, que le Rotary est une pyramide inversée. Et que grâce au club, on a monté une action qui s'est appelée Champion solidaire sans fauteuil pour 100 enfants. Et donc, on a monté des actions. Enfin, les clubs ont monté des actions pour justement contribuer à ces dons. Et nous avons contracté avec l'UNSS, donc l'Union nationale de sportifs scolaires, pour justement distribuer ces fauteuils un peu partout en France. Donc c'était aussi une très grande opération d'envergure et nous avons reçu l'année dernière deux présidents internationaux dans notre district, donc c'était également une fierté, l'un dans le cadre de cette opération et l'une et la deuxième et la présidente de notre année qui s'appelle toujours Stéphanie Urschik. Elle a demandé à venir nous voir, donc ça c'est exceptionnel. Oui, en général, oui, on demande à ce que le président ou la présidente, le gouverneur vienne nous visiter. Et dans notre cas, c'est la présidente qui a demandé à venir nous visiter. Mm-hmm. Voilà, donc j'en suis belle, très heureuse.
Belle reconnaissance. Mm. Donc ça veut dire que vous, pendant ces 3 ans où vous avez préparé ce gouvernorat, vous avez préparé une feuille de route pour les clubs.
Exactement.
Et vous l'avez présenté au fur et à mesure, comment ça se passait?
Oui, alors la structure du district, donc je suis gouverneur du district 1660, nous avons des adjoints au gouverneur et les adjoints de gouverneur sont formés pour s'occuper de 4-5 clubs selon leur périmètre, justement pour les accompagner dans leur plan stratégique. Et le plan stratégique, c'est un plan stratégique qui est conçu au Rotary International et décliné dans tous les clubs à l'image, mais chacun est libre, évidemment. Chaque club est libre de construire son propre plan stratégique en fonction de son périmètre, en fonction de son ADN, en fonction de ses membres. Et donc l'idée, c'est de les accompagner tout le long de l'année pour bien mettre en place leurs actions qui sont très souvent en ligne directe avec le thème insufflé par le gouverneur et aussi par la président ou la par le président ou la présidente internationale.
Le Rotary est quand même fait d'un bon nombre de chefs d'entreprise. Donc est-ce que c'est plus facile d'arriver à convaincre des chefs d'entreprise justement pour faire de la résolution de conflits un levier économique?
Absolument. Alors nous avons bien sûr le comme je l'ai dit en préambule, nous sommes un réseau de professionnels. Donc même bien que nous ayons des retraités, mais ces retraités étaient aussi des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des salariés importants, enfin dans leurs entreprises. Donc quand je dis important, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de décision et le pouvoir de décision, c'est très important pour pouvoir décider d'adhérer à un club service ou pas, et donc de venir en aide à la population. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile. Donc quand on traite avec des décideurs, de pouvoir justement pouvoir aider à la résolution de conflits, parce qu'on commence aussi par une vision macro du conflit et comment on le décline aussi parmi les autres personnes de l'entreprise.
Merci Nada. Je m'adresse à Jean-Christophe et à Tzvika. Donc déjà, est-ce que l'un et l'autre, vous connaissiez forcément le Rotary, mais est-ce que vous en aviez une idée plus précise, Jean-Christophe?
Alors, j'avais pas cette dimension internationale aussi forte et aussi puissante, puisque vous agissez quand même dans de nombreux pays. Donc les causes, je les connaissais, mais je n'imaginais pas autant de répercussions internationales. Et je trouve ça, ce mouvement prend toute son ampleur, justement, dans sa dimension planétaire.
Oui, oui. Svika ?
Quant à moi, je connaissais de nom, mais je le découvre pleinement aujourd'hui.
D'accord.
Avec Nada.
Et vous, Jean-Christophe, ce dont parle Nada par rapport à la gestion des conflits, ça doit vous évoquer pas mal de choses pour vous ?
Oui, alors à mon petit niveau du coup national pour le coup, et c'est vrai que en vous écoutant, j'avais l'impression j'aime à penser que j'ai un job de santé publique, parce qu'effectivement les entrepreneurs, les dirigeants que j'accompagne, au final, c'est des gens à qui j'évite de sauter de la falaise, à qui j'évite de tomber dans la dépression, voire dans différents symptômes et pathologies qui sont liés à toute l'anxiété que vivent les dirigeants aujourd'hui. Donc oui, à ce niveau-là, ma partition à moi et mon côté participation à aider l'autre, elle se situe à ce niveau-là.
Elle remplit pleinement aussi l'idéal du Rotary, finalement.
Absolument.
Nada, donc être une femme gouverneure, ça n'a pas été simple, ou au contraire, visiblement, vous l'avez bien vécu. C'est ce que nous avons dit avant de commencer l'émission.
Oui, moi je l'ai bien vécu. J'étais vraiment pleinement investie. Je le suis toujours dans mon rôle de membre lambda de mon club Paris La Défense Courbevoie. Donc je suis vraiment pleinement dedans et avec cette animée par cette par se servir qui est important de nos jours, et surtout par une des causes majeures du Rotary qui est la paix. Et justement, c'est sans fin. Et donc la paix, si on n'est pas vigilant, on le constate aujourd'hui de nos jours.
Peut-être particulièrement aujourd'hui où il n'y a jamais eu la planète complètement en paix, mais en ce moment, on sent que les tensions sont vives.
Oui, c'est très très critique. Donc voilà, pour la suite, j'essaye aujourd'hui de me dire, mais comment je peux transformer ce que j'ai vécu en tant que gouverneur au service et continuer à vraiment servir la communauté aussi bien dans mon club qu'ailleurs. Et donc j'ai avec l'Institut économique pour la paix, je travaille en partenariat avec eux, donc l'IEP, pour justement et le Rotary International, pour monter, nous sommes en train de monter des ateliers pilotes dans les clubs. Donc je vais commencer le 4 novembre dans le Rotary Club du Vésinet avec un atelier pilote sur la paix positive, en commençant par nos clubs. Est-ce que nous avons réellement la paix dans nos clubs, ou est-ce que comment ça se passe?
Bien sûr,
parce que quand on parle de paix,
commencer par se regarder soi-même.
Exactement, on est dans les relations humaines, donc on n'est pas à l'abri du tout de conflits potentiels, etc. Et puis aussi les deuxièmes ateliers seront dans les écoles. On avait commencé l'année dernière aussi d'aller dans les écoles. Il faut savoir que notre district a des partenariats avec les rectorats de Versailles, de Créteil et de Paris, et donc grâce à ces partenariats, nous pouvons aussi aller dans les écoles, aussi bien publiques que privées, pour animer des ateliers sur la paix positive.
Et donc, les ateliers que vous allez animer au sein des clubs du Rotary, ça consiste en quoi exactement?
Alors, évidemment, on commence par la définition de la paix positive, de ce que c'est que la paix positive, qui est vraiment d'attirer l'attention des membres que ce n'est pas parce qu'il y a absence de conflit qu'on est en paix, mais que potentiellement, on pourrait aussi arriver à des conflits. Les conflits peuvent être de divergences de points de vue, les conflits peuvent être des égaux, parce que aussi on est dans le bénévolat, donc malgré tout. Et puis les conflits peuvent être aussi sur des actions. Quelqu'un pourrait avoir envie d'une action plutôt qu'une autre, etc. Donc on commence vraiment à dresser un paysage sur qu'est-ce que c'est que la paix positive, à savoir que la paix positive repose sur 8 piliers. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, ça fait partie avec un bon capital humain. Est-ce qu'on a les talents à l'intérieur du club, une bonne gouvernance? Est-ce que le président ou la présidente du club sont en harmonie avec leur comité et les membres du club? Il y a aussi le bon lien avec le voisinage, c'est-à-dire les actions interclubs, etc. Donc voilà, on décline 8 piliers comme ça. Et puis après, on les fait travailler. Donc là, je reviens à mon côté professionnel, parce que on travaille sur la systémique, c'est-à-dire que quand on lâche un pilier, tout peut s'écrouler. Et donc c'est très important d'être en conscience, de travailler en conscience avec ces 8 piliers. C'est une sorte de plan stratégique pour prévenir plutôt que guérir. Donc c'est comment on arrive, et en fait c'est très amusant, parce que ça, il y a un côté très ludique. C'est absolument pas, c'est pas descendant. On n'est pas là pour, on est entre rotariens, et on n'est pas là pour dire moi je sais et toi tu sais moi. C'est plutôt un travail de
ping-pong un petit peu.
Absolument, absolument. Et puis on, malgré tout, avec, on les met parce qu'on va être en duo sur ces ateliers-là. On les met en situation. Et puis on essaie aussi de tisser avec eux une toile avec une pelote de laine. On va leur démontrer que quand on lâche un pilier, tout le tissage se détruit.
C'est plein de métaphores, mais oui, qui sont très très parlantes. Hein,
absolument, absolument. Et c'est une autre façon aussi de mettre en place le plan stratégique et de lui donner un côté ludique, mais à la fois très pertinent.
Et un plan qui, au fond, peut s'adresser aussi au monde économique, enfin au monde de l'entreprise.
Absolument, absolument. C'est interposé, et d'ailleurs ça fait partie de mes projets, c'est de l'interposer dans le monde de l'entreprise, mais ça vient du monde de l'entreprise parce qu'on est tous acteurs de paix, potentiels acteurs de paix sans le savoir, et il faut vraiment être en conscience de ce que c'est que la paix et ce que c'est la paix positive. Et donc, dans les entreprises, c'est très très important de le mettre en place, quel que soit le type de l'entreprise, quelle que soit sa taille, dans les institutions aussi, tout lieu est vraiment propice pour parler de la paix et d'animer ces ateliers-là.
C'est ça. En parlant de la paix, comme vous le faites, ça devient bien plus qu'un symbole, parce qu'au fond, tout le monde veut la paix, mais est-ce qu'on y travaille chacun suffisamment pour l'obtenir ? C'est tout le débat.
Oui, absolument, absolument. Et c'est la raison. Et si vous voulez, on tire un peu le fil, c'est-à-dire qu'on commence par le critère des quatre questions, avec cette éthique rotarienne, pour arriver à nos valeurs, et puis pour arriver aussi à ces huit piliers de la paix positive et de construire un monde qui n'est pas utopique, utopique pour la paix, mais qui est réel et qui est vraiment conscient que si on n'agit pas en amont, on peut toujours tomber dans une espèce de conflit. Ou de guerre. Et donc c'est la raison pour laquelle le Rotary œuvre dans cette voie-là, et chacun de nous, chaque Rotarienne, chaque Rotarien, est vraiment animé par tout ça.
Investi. Nada, on s'arrête quelques minutes pour écouter La Corrida par Francis Cabrel, mais restez à l'écoute pour la suite, on revient juste après.
Merci.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier.
IDFM 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. C'est l'économie en direct avec pour fil conducteur l'humain au cœur de l'économie. En présence de Nada Ghanem, past gouverneur du Rotary Club District 1660, Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, et Lionel Brochmann, alias Tsvika, président des éditions Compte-Goutte. Nada, quel projet pour 2026 ?
Plein de projets. comme vous l'avez compris, je suis animée par la paix. Et pour moi, c'est un projet majeur, un projet de vie. Et donc, je suis en train de travailler sur des modules pour les entreprises, pour instaurer la paix positive dans toute sa splendeur avec ses 8 piliers, et en travaillant aussi avec un modèle que vous connaissez sans doute, la ProcessCom. Donc comment faire en sorte qu'on ait la ProcessCom d'un côté, la paix positive de l'autre, et puis le troisième, l'interculturalité, la connaissance de la culture de l'autre. Et donc avec un melting pot de ces trois ingrédients, j'espère arriver vraiment à arriver à la prévention. Et comment on peut arriver dans un monde plus conscient, plus pacifiste et plus en résonance avec la paix, quoi. C'est vraiment important. Et donc ça, c'est vraiment pour faire écho à ce que j'ai pu expérimenter dans au Rotary, et bien évidemment au Rotary International. Je continue mon chemin avec la gouvernance actuelle du district, avec mon club Paris La Défense Courbevoie, avec mes amis rotariens avec lesquels j'ai tissé des liens d'amitié, parce que c'est la convivialité, l'amitié sont des points très très importants au Rotary.
Ça fait aussi partie des piliers, hein, l'amitié.
Oui. Et j'ai envie qu'on me repère dans le futur, pas comme le pigeon sur le front, mais comme celle qui œuvre pour parler, pour propager, pour mettre en place, pour aider à mettre en place des actions pour la paix et la paix positive en spécifiquement.
Vous en parlez très bien, Nada, et je suis sûre que votre projet va, enfin en tout cas je vous le souhaite, va devenir grand.
Merci beaucoup.
Lionel, vous vouliez poser une question ?
Non, je voulais juste faire une toute petite remarque, puisqu'on parlait d'éducation tout à l'heure. Et je sais que la base de travail que j'ai quand je suis avec des jeunes, des enfants, etc., c'est de prendre un conte, par exemple n'importe lequel, de le démonter d'une certaine manière et de le reconstruire selon différentes cultures. Parce qu'on s'aperçoit finalement, l'air de rien, puisqu'on parlait de l'interculturalité, c'est que le monde, on pourrait le diviser en deux et pas plus que ça. D'un côté, les gens mangent du blé, l'autre côté, ils mangent du riz. Et à part ça, c'est-à-dire que la culture de la terre et la culture de l'eau, mais partout, on raconte exactement les mêmes histoires. Il n'y a que la géographie et la recette de cuisine qui peut changer.
C'est beau.
Merci Lionel. Jean-Christophe, je vous ai vu opiner du chef lorsque Nada a parlé de ProcessCom. Ça vous parle, hein ?
Oui, c'est un outil. C'est un outil comme il en existe beaucoup d'autres. C'est bien d'utiliser ces différents outils. Après, et par expérience. C'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise au quotidien pour justement aller dans la bonne direction.
En avoir le meilleur.
C'est ça.
Merci. Nada, si vous deviez adresser un message aux femmes qui hésitent à s'imposer dans des rôles à dominance masculine, que leur diriez-vous ?
J'aimerais leur dire que nous avons toute notre place, qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, et nous sommes vraiment aidés et travailler en synergie aussi, parce que moi je crois fermement en l'interdépendance. Il n'y a pas les femmes à part et les hommes à part.
Non,
on est vraiment interdépendants, et pour moi c'est...
On a besoin les uns des autres.
Exactement, et c'est très très important cette interdépendance-là. Donc continuons dans l'interdépendance et continuons à défendre les valeurs humaines avec un grand H.
Et est-ce qu'on peut vous retrouver un jour présidente internationale, Nada ?
Merci beaucoup. C'est un long chemin à parcourir, mais
pourquoi pas ?
Pourquoi pas?
Voilà. On prend date. Merci infiniment, Nada Ghanem, de nous avoir montré comment la paix et la performance peuvent aller de pair. Et puis, bravo pour votre engagement Rotary et puis votre projet 2026. On va vous suivre et puis vous nous tiendrez informés de ces ateliers.
Avec plaisir.
Moi, j'ai hâte de savoir. Merci
infiniment.
Avec
plaisir. Merci beaucoup, Jacqueline.
On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Et nous revoilà sur IDFM Radio pour la suite de l'économie en direct dédiée ce matin à la paix, la résilience et la transmission avec toujours à mes côtés Nada Ghanem, fondatrice associée directrice générale depuis 2008 du cabinet International Academy for Innovating Coaching, past gouverneur du Rotary Club District 1660, Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance, et Lionel Brochmann, alias Tsuika, président des éditions Compte-Gouttes et compteur professionnel depuis près de 50 ans. Jean-Christophe Maisonneuve, donc je m'adresse à vous à présent. Donc merci d'être avec nous également ce matin. Donc j'ai rappelé que vous étiez déjà venu chez IDFM pour nous parler de votre ouvrage, La performance d'une vie, mais peut-être quelques mots pour restituer votre trajectoire, Jean-Christophe.
Oui, alors j'aime bien résumer, j'ai eu trois vies. J'ai été sportif de haut niveau, j'ai joué au rugby en première division. Ensuite j'ai travaillé 20 ans dans le retail et la distribution, donc à animer des équipes, toujours pour la performance. Puisque c'était la rentabilité des magasins. Et au rugby, effectivement, on connaît aussi, on sait, on joue pour gagner, il faut être le meilleur. C'est en équipe. Ça a beaucoup influencé aussi ce que je fais aujourd'hui. Et puis depuis 8 ans maintenant, je suis préparateur mental. Voilà. Suite à un incident de vie ou un parcours de vie, on va dire, puisque j'ai mon fils qui était sportif à l'âge de 15 ans, qui a eu une leucémie, et qui a combattu la maladie grâce au mental, clairement, puisqu'il s'est jamais vu malade, et du coup il a considéré que mentalement, il pouvait faire les mêmes choses que les autres. Et aujourd'hui, il va très bien, ça fait 10 ans maintenant, et ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et je me suis dit
sur
la puissance du mental. Je me suis formé en neurosciences, tout ce qui tourne autour de ça. Je me suis intéressé à ça et je constate qu'on peut faire de grandes choses.
Et donc, votre fils a réussi cette performance tout seul ou il a été aidé à l'époque?
Alors, on était autour de lui, oui. Et puis il y avait tous les services médicaux qui l'ont entouré, mais on s'est dit c'était le match de sa vie. Pour un sportif, ça parle. Tous les points comptent. Il n'avait pas le droit de le perdre. Et puis, c'était point par point. Et je me souviens d'une phrase. Il m'a dit, moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. La maladie, elle est là et je peux rien y faire. Donc, qu'est-ce que je peux contrôler? Tous les protocoles médicaux, la façon dont on devait, par exemple, tout laver au vinaigre blanc pour manger. Toutes ces accepter la chimio, accepter les ponctions lombaires, accepter tous ces trucs-là, pour se dire, voilà, ce sont les étapes à passer pour y arriver. Et ça lui a plutôt réussi.
Il avait quel âge?
Il avait 15 ans.
15 ans.
Il avait 15 ans.
Voilà. Écoutez, bravo. Bravo et merci pour ce témoignage qui est magnifique. Merci. Donc aujourd'hui, vous aidez les entrepreneurs à transformer leurs émotions, leur stress, leur peur, précisément en performance. Et c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit souvent. Donc, par quels moyens vous arrivez justement à rééquilibrer leur vie pro et perso?
Alors, on parlait d'outils tout à l'heure avec la ProcessCom, et puis tout ce qui a été fait au sein des associations qui est transposable au sein de l'entreprise, en fait, l'est aussi au monde du sport. Et moi, je fais beaucoup de translations entre le monde du sport et l'entreprise. Et les moyens, en fait, la préparation mentale, moi, j'aime bien cette approche-là. C'est pas qu'un outil. En fait, c'est une approche vraiment holistique et plutôt pragmatique. C'est-à-dire qu'un sportif, quand il y a quelque chose qui va pas sur le terrain, il faut vite régler le problème. parce que le match c'est le week-end et que le classement, etc. Donc il faut que les choses avancent. Et c'est ce que j'aime chez les sportifs, c'est qu'ils se connaissent, on bouge un curseur un tout petit peu et il y a un changement dans leur performance, dans leur réaction et autres. Il faut que ce soit la même chose avec un entrepreneur. En tout cas, c'est ce que eux attendent. On sait qu'aujourd'hui, on a un entrepreneur sur trois qui fait un burn-out. On sait qu'on a à peu près 75% des professionnels qui vivent sous un stress et une anxiété intense quotidiennement. L'être humain n'est pas fait pour vivre sous stress en permanence. Il faut pouvoir le gérer, sinon il y a de la fatigue, sinon il peut y avoir des dérives physiologiques. Et donc c'est important de pouvoir agir, d'avoir des trucs pour agir. Alors oui, il y a les outils, mais je travaille principalement sur la connaissance de soi.
Il y a même des présidents d'associations qui vivent les mêmes choses. Jean-Christophe, en vous écoutant, je me disais, très bien, vous avez vous avez cette activité, mais encore faut-il trouver les chefs d'entreprise qui acceptent de vous recevoir et puis de se livrer, parce que c'est souvent compliqué, non ?
Oui, alors ça aussi, c'est encore une nouvelle stat que je pourrais vous donner, mais on a 80%, pareil, des professionnels qui refusent d'admettre qu'ils ont un problème de santé mentale. C'est ce qui, je pense, favorise ces taux de dépression et de burn-out. C'est-à-dire qu'on s'accroche, on tient, jusqu'au moment où ça casse. Et quand ça casse, c'est plus le même, c'est plus la même chose. Ouais. Alors, globalement, je pense que j'ai une majorité de femmes qui reconnaissent plus facilement, donc comme quoi les femmes ont aussi cette capacité à se remettre en question plus facilement, à moins vouloir montrer que je tiens. Mais au contraire, elles sont prêtes à accepter, je vais pas dire leur vulnérabilité, mais ça fait partie d'elles, et en même temps à faire ce qu'il faut pour avancer. Donc ça, c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui est capable de se remettre en question comme ça. Et les hommes que j'ai le sont tout autant. Donc ce sont des belles réussites. Il y a vraiment des témoignages intéressants.
Ce détail que vous apportez, en fait, soulève le problème de l'éducation. Hein, parce que je pense que les petits garçons sont élevés pour être invincibles, les plus forts, alors que les petites filles, non, c'est pas ça. Il n'y a pas un peu de ça.
Certainement. L'éducation est liée à beaucoup d'autres impacts que celui-là. Puisque aujourd'hui, les comportements qu'ont les chefs d'entreprise et même tout à chacun sont liés à l'éducation, sont liés à notre. À notre famille, à notre histoire, et c'est ce qui influe la façon dont on agit au quotidien.
Alors, vous avez dit très justement que la santé mentale reste tabou dans le monde économique. Et est-ce pour cette raison qu'en 2025, la santé mentale a été érigée en grande cause nationale par notre gouvernement ?
C'est parce qu'on voit qu'il y a des dégâts. On constate les dégâts. C'est vrai que on peut pas continuer. En toute honnêteté, entre tout ce qui se passe politiquement, socialement, et toute l'anxiété que ça génère, quand on regarde les informations, mais il y en a qui sont prêts à se pendre après. Quand on voit tous les problèmes de harcèlement à l'école, tout ce qui se passe dans les établissements scolaires, où qu'on regarde. Moi, j'admirais Nada tout à l'heure qui disait qu'elle était ravie, qu'elle était en paix avec ce qu'elle avait fait. Je trouve ça génial. On n'entend pas assez ce discours. Et j'œuvre pour ça. C'est-à-dire que je pense que, alors à ma porte quelque part, mais c'est tellement important d'avoir les retours de gens qui vous disent merci. Je me lève le matin, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire, et je suis ravi de me lever. C'est juste extraordinaire.
Quelle est la première erreur que commet un entrepreneur en matière de gestion du stress ?
Alors déjà, le mettre sous le tapis, en disant « je vais bien, tout va bien ». Donc ça, c'est souvent les premières erreurs. Et puis, de se dire que ça ira mieux demain. que c'est un mauvais moment à passer, ou alors que ça fait partie de tout job d'entrepreneur. Le stress, il faut pas le faire disparaître, il faut le gérer. Le stress, il est chez les sportifs, il faut surtout pas qu'il disparaisse. Hein. Si vous demandez à un boxeur, avant de rentrer sur le ring, d'être super zen, complètement détendu, il va se faire complètement défoncer.
Ah, il va se faire... ah oui, d'accord.
À l'inverse,
ah oui, moi, j'aurais pensé le contraire.
Ah, non, non. Puis à l'inverse, ouais. Si vous demandez à un golfeur de se mettre en énergie forte avant de taper son coup, ça va partir n'importe où. Donc, il est évidemment à réguler en fonction de l'activité qui nous attend. Pour ça, il faut se connaître. Puisqu'encore une fois, la définition du stress que j'aime bien, c'est quand même que c'est la différence entre la perception d'une situation et l'interprétation de nos ressources pour y faire face. Donc plus, pour une même situation, deux personnes différentes vont pas du tout stresser de la même façon. Si je considère que j'ai toutes les ressources pour faire face à cet entretien ou autre, je vais être... pas trop stressé ou juste ce qu'il faut parce que j'ai mes ressources. Par contre, si je considère que je suis pas au point, que j'ai pas les connaissances, etc., etc., ben cet entretien d'un seul coup, il va me paraître
insurmontable.
Et là, gros stress. Et après, le stress, comme c'est une réaction physiologique et non pas une émotion, ben il se transmet. Ça peut être les mains moites, ça peut être le cœur qui s'emballe, la respiration qui bloque. Il peut y avoir plein de symptômes qui font que on va réagir de telle ou telle manière.
Quand vous dites que c'est une réaction physiologique, c'est-à-dire c'est un afflux d'hormones, de certaines hormones qui font qu'on est dans cet état?
Oui, en fait, le stress, il active le système nerveux sympathique. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais et le système nerveux sympathique, c'est ce qui met un peu le corps en éveil quand il y a un danger, quand il y a quelque chose. Et puis la seule façon de rééquilibrer ça, c'est d'activer son système nerveux parasympathique, qui lui va donc sécréter tout ce qui est endorphine et autres pour compenser l'adrénaline. Et la seule façon de réguler ça, c'est la respiration. C'est notre super pouvoir, à nous, êtres humains. La respiration, c'est immédiat. Quand on est en stress, pour poser un peu les choses, on respire. Alors, il y a plein de façons de respirer, mais c'est la respiration qui permet de réguler les choses. Mais avant d'en arriver là, moi, ce que j'aime bien creuser, c'est que la personne qui vit ce stress comprenne pourquoi telle situation le met à stresser. Est-ce que c'est parce qu'il a un manque de confiance sur ses qualités, sur ses ressources, ou est-ce que c'est parce que la situation lui semble insurmontable et à ce moment-là, comprendre pourquoi. Et à partir de là, déjà, on désamorce beaucoup de choses.
Et donc, la cible de vos clients, quelle est-elle?
Alors, aujourd'hui, les entrepreneurs, principalement. Je continue à garder, évidemment, la main sur certains sportifs, parce que j'aime ça, parce que c'est mon ADN. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, avec mes 20 ans d'expérience de management et de direction commerciale, j'avais beaucoup de choses à transmettre qui dépassent la préparation mentale au niveau de l'entreprise, parce que je peux intégrer dedans des conseils ou en tout cas une orientation. Je peux répondre à des problématiques de management qui sont source de stress, à des problématiques commerciales, prospection et autres qui sont également source de stress.
Merci Jean-Christophe Maisonneuve. On marque à nouveau une pause et cette fois avec Lily Cube et son titre Encore voyage en Italie.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie, et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catinini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. S'en aller au matin, boire un
des martinis et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et boire un libretto maman trop beau, du coup Paris quand Paris est à l'eau. Dans un dancing avec vue sur l'Arnaud. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et boire à l'aigle Thomas Antropo, du coup Paris quand Paris est à l'eau.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous êtes bien à l'écoute d'IDFM Radio avec ce matin dans le studio Nada Ghanem, Jean-Christophe Maisonneuve et Tsvika de Compte-Gouttes. Jean-Christophe, donc on a compris que vous aidiez les entrepreneurs à transformer leurs émotions, leur stress, leur peur en performance, et vous organisez des ateliers du nom de Pitch Academy. Donc quelques mots sur ces ateliers.
Alors mes ateliers du Pitch sont le premier pas pour un entrepreneur qui est de se présenter, de se vendre quelque part. Et ça, c'est important. C'est souvent source de stress pour eux de prendre la parole en public. Ils sont pas formés à ça spécifiquement. Et prendre la parole, se présenter devant, alors soit un client, soit un groupe d'entrepreneurs, soit une audience avec potentiellement des clients, ça reste une épreuve. Et il y a des méthodes pour ça. Et moi, je ne donne pas de technique de prise de parole en public ou positionnement de la voix ou comme peut le faire quelqu'un qui fait du théâtre. Je vais plutôt travailler sur le fond et le storytelling. La première étape étant de bien savoir qui on est pour pouvoir en parler. D'ailleurs, c'est surprenant, j'ai souvent des avocats dans ces ateliers-là qui potentiellement n'ont pas de problème pour prendre la parole, par contre sont incapables de parler d'eux de façon différenciante que je suis avocat, droit du travail, etc., leurs voisins ou des assureurs ils se présentent tous de la même façon, les agents immobiliers ou autres. Et or, dans notre histoire, on a toujours quelque chose d'inspirant, et c'est très important d'en prendre conscience, de l'assumer et de pouvoir l'exprimer. Parce que mettre une couche de pathos, sans le côté négatif ou péjoratif, mettre un peu de pathos dans un discours, c'est ce qui touche l'audience. Statistiquement, on sait qu'aujourd'hui, il y a dans un discours, il y a ethos, logos et pathos. Il y a la crédibilité, le côté... le côté crédible, le côté plutôt légal dans le sens où logique, parce que on a tel client, on a telle preuve sociale qui montre qu'on est à sa place. Et puis il y a le côté émotionnel. Et ben le logos et l'éthos ne représentent que 15%. Donc on a 30% au total. Tout le reste, c'est du pathos, mais ça peut représenter que 5% des quantités. C'est-à-dire qu'en une phrase, dans une présentation de 3 minutes, juste une phrase avec de l'émotionnel peut marquer les esprits à plus de 70%. Et ça, c'est extraordinaire dans un discours.
Et à l'inverse, c'est-à-dire qu'avec une phrase, on peut se flinguer.
Et en une phrase, on peut, voilà, on peut passer complètement à côté.
Oui,
exactement.
C'est ça. Ouais, ouais. Donc, ce sont ces méthodes que vous essayez d'insuffler à vos clients.
Oui, et puis c'est un premier pas vers une meilleure connaissance de soi. Donc pour moi, c'est presque la première marche de mon accompagnement.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par une meilleure connaissance de soi ?
C'est justement de comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tel ou tel comportement. Pourquoi on a telle ou telle peur ? Pourquoi on a telle ou telle croyance ? C'est de remonter un petit peu. Pourquoi j'ai une certaine croyance à l'argent ? Où j'arrive pas à économiser, par exemple. Et en fait, on se rend compte que la mère, pendant des années et des années, disait, bah non, les riches, c'est pas bien, ils sont égoïstes et ils font des choses pas bien. Enfin, vraiment, c'est pas des gens fréquentables. Bon, bah, quand on a compris ça, d'un seul coup, on se rend compte qu'on n'est pas à l'origine de cette pensée et qu'on n'était pas créateur de cette pensée et donc on n'a pas de raison de reproduire ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on peut casser les croyances et passer à autre chose.
Et par exemple, distribuer des flyers dans la rue pour un événement et qu'on n'ose pas le faire. Vous l'expliquez comment ?
Il faut comprendre pourquoi on n'ose pas le faire. Ouais. C'est quoi ? C'est un rapport du regard des autres. Mmh. C'est oser se montrer, c'est oser... Donc il y a plein de choses.
Il y a plein de raisons. Bon, ouais. On en parlera après l'émission, Jean-Christophe. J'ai des problèmes à régler. Nada, quand vous écoutez Jean-Christophe, ça vous parle sûrement ?
Oui, tout ça fait écho à ce qu'on fait au Rotary, parce que pitcher un peu qui on est, la connaissance de soi, ça fait vraiment la partie très importante du Rotary. On développe ce qu'on appelle chez nous le leadership, donc comment on se connaît soi-même. Pour bien interagir avec les autres et pour bien mener nos actions. Donc ça se regroupe totalement. Et puis la santé, c'est une des causes stratégiques du Rotary, donc ça fait totalement écho.
Ça fait écho. Merci Nada. Chika, vous aussi, ça fait écho les propos de Jean-Christophe ?
Oui. Peut-être que la manière de l'aborder serait différente. Et...
Si vous-même, vous deviez l'aborder.
Si moi-même, je devais l'aborder, oui. Mais sinon, oui, dans l'ensemble, évidemment.
Mais on y reviendra, Tsvika, parce que je crois que la bibliothérapie est une vraie thérapie, justement, pour lutter contre le stress et puis d'autres émotions.
Absolument, sauf qu'il faut faire attention à ne pas mettre de la thérapie n'importe où.
D'accord.
Et n'importe comment. C'est un peu, et c'est ce qui me fait peur, c'est un peu la mode aujourd'hui. Mm-hmm. Et... c'est ce qui fait qu'il est difficile de trouver les endroits où les gens peuvent se guérir.
Très bien, merci Svika. Jean-Christophe, le monde actuel est très anxiogène. Donc, est-ce que ça crée un regain de consultation pour vous ? Enfin, je ne sais pas si on parle de consultation ou d'intervention.
Oui, d'accompagnement. Oui, le mal-être, il est présent. Ça, c'est une évidence. Comme je disais tout à l'heure, il y a les gens qui l'acceptent, de reconnaître ce malaise. Mais vous savez, aujourd'hui, on est soumis à le corps et le cerveau humain sont soumis à des dangers. On sort dans la rue, on peut être renversé par une voiture à tout moment. Ça, ce sont les dangers réels, mais il y a les dangers perçus, puis on a les dangers anticipés. Je pense que je vais arriver en retard au boulot, c'est une source de stress. Et le danger perçu, c'est j'ai reçu des mails. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que je me fais pas un peu reprendre ? Ou je vais regarder les infos et encore une fois, je vais... En fait, tout ça génère les mêmes réactions que s'il y avait un camion qui allait nous renverser. Sauf que ce ne sont pas des réels dangers. Aujourd'hui, nous, on ne fait plus du tout la différence. Et c'est ce monde qui va très vite. Vous savez, il y a statistiquement, alors je mets des guillemets, mais on disait que l'homme de Néandertal était soumis à peu près à 4-5 fois un stress dans la journée, à cause d'une bête sauvage, d'un danger quelconque. Aujourd'hui, on est plutôt entre 60 et 80 fois. Parce que, effectivement, il y a le téléphone qui sonne, il y a les réseaux sociaux. Chez les jeunes, c'est ultra important. Et c'est source de stress réel. Et ça prend une telle ampleur que ça devient, que les impacts de ce stress-là sont les mêmes que quand il y a un camion qui arrive. Il est là la régulation à faire. Alors, la préparation mentale, on en a beaucoup parlé pour les JO de 2024. J'ai un peu surfé sur la vague, mais les gens ont du mal à se dire que il y a un réel intérêt dans le monde du travail. Et moi, mon job aujourd'hui est d'essayer de vulgariser ça. C'est-à-dire que pour moi, la prépa mentale, dès qu'on se lève et qu'on choisit son mindset, on utilise la prépa mentale. On peut dire, quand on se lève, j'ai mal dormi, j'ai mal au dos, j'ai pensé au boulot. Ou alors, on peut dire, je vais passer une super bonne journée. Et ça, c'est déjà un impact de son mindset. Et puis après, on a des routines qui vont faire que ça va nous permettre de nous décharger mentalement de certaines choses qui nous polluent. Et on va pouvoir clarifier sa journée, clarifier ses objectifs, être plus efficace dans ce qu'on fait, être focus, avoir plus d'énergie aussi pour se concentrer et autres. Et puis le soir, quand on rentre, il faut aussi récupérer, parce que l'entrepreneur, il a du mal à faire. C'est pas un marathon qu'il fait. Lui, son marathon, il dure 365 jours par an. Donc il faut qu'il se donne du temps pour récupérer. Et au quotidien, récupérer est important, donc se vider la tête avant de se coucher, être capable de se dire qu'on a fait des actions dont on est fier, qui nous permettent de dormir sereinement, en pleine confiance, et de se dire demain est une autre journée et qu'on peut passer à autre chose. Donc, on est tous soumis...
Il y a du boulot.
On est tous soumis à ça, et les entrepreneurs principalement, parce qu'ils s'isolent, parce qu'ils ils vivent leur truc sans, enfin leur problématique sans essayer de, en protégeant leur famille. Donc ça les isole naturellement. Ils s'isolent aussi parce que le rythme de vie pro perso est un peu déséquilibré, parce qu'on arrête le sport, parce qu'on voit plus ses amis et autres. Donc il y a un véritable impact sociétal à travailler là-dessus.
Alors j'imagine vraiment qu'un chef d'entreprise qui vous reçoit, qui vous accueille pour une formation doit, rien que vos propos doivent déjà le rassurer.
Alors j'espère. J'espère que ça rassure. En tout cas, ceux qui m'ouvrent leurs portes, je pense que ça les rassure, puisqu'on je les accompagne au minimum 3 mois. Hein,
préparation. C'est ça, c'est ce que c'est j'allais vous demander, le temps
d'un accompagnement.
Oui, d'un accompagnement.
J'aime au moins 3 mois. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme les préparateurs physiques. Vous pouvez pas arriver à la salle de sport avec votre préparateur physique en lui disant le 25 juin, je veux préparer mon body summer pour le 28 juin. Il pourra pas. C'est pas. Il n'a pas de baguette magique. Il faut que vous travaillez de votre côté. Il va vous donner des exercices à faire et vous allez travailler. Moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir, j'ai pas de baguette magique, je suis pas un gourou, je suis pas un sorcier, même si certains sportifs le disent, mais je donne des exercices et le cerveau, c'est un muscle qui se travaille. Il faut, un peu comme la pâte à modeler, il fonctionne d'une certaine façon depuis des années. Il faut le réchauffer un peu pour pouvoir lui donner la forme qu'on a envie de lui donner. Et tout le travail est là. Voilà.
Jean-Christophe, encore une question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret où la préparation mentale a sauvé une entreprise ?
Récemment, j'ai un directeur d'agence de communication qui avait perdu son associé, qui avait quitté la boîte, et c'est l'associé qui s'occupait du commercial. Donc la personne qui restait, donc il était tout seul. Et il me dit, soit je mets la clé sous la porte, soit je trouve un moyen d'aimer le commercial, ou de trouver comment prospecter et autres. Et en fait, tout ça, c'était lié à des blocages par rapport à sa confiance en lui, au regard de l'autre, au fait de prendre contact avec des gens qu'il ne connaissait pas et autres, qu'on a travaillé ensemble pendant un peu plus de 3 mois. Et il m'a rappelé récemment, il m'a dit, voilà, je viens de terminer mon année fiscale. Je m'étais fixé des objectifs l'année dernière qui étaient, pour moi, juste un chiffre. Eh bien, figure-toi que je viens de faire plus 40 sur mes objectifs. Donc, il était ravi. Et il me dit, ça, c'est grâce à toi. Parce qu'en fait, on a juste dédiabolisé le mot prospection. Et je lui ai montré en fait, il a pris conscience. J'ai rien fait du tout. C'est lui qui a pris conscience.
C'est lui qui a fait le travail, mais c'est grâce à votre accompagnement.
Voilà. Il a pris conscience qu'il avait toutes les ressources et les qualités pour pouvoir avancer, vendre son produit et sa société. Et voilà, il a rempli 6 mois de l'année avant qu'on ait fini l'accompagnement. Donc, je suis ravi pour lui.
Jean-Christophe, si des auditrices et auditeurs nous écoutent, comment peuvent-ils vous contacter?
Alors, j'ai un site internet, JCM Mental Performance. Je suis sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram et Facebook, je crois. Voilà, toujours à JCM Mental Performance.
Et un conseil pour nos auditrices et auditeurs qui se sentent submergés par leurs défis professionnels?
De ne pas hésiter à se faire accompagner, à demander de l'aide. Moi, je ne connais pas de grands sportifs qui ont fait leur carrière sans entraîneur. Usain Bolt avait un entraîneur, Nadal avait un entraîneur, enfin voilà, tout le monde se fait accompagner et les grands entrepreneurs se font également accompagner, ne serait-ce que par un comité de direction ou...
Oui, c'est ce qu'on ne sait probablement pas assez, c'est-à-dire que ça paraît évident qu'un sportif se fasse accompagner ou les chefs d'entreprise de par exemple du CAC 40, mais les autres au fond en ont tout autant besoin.
Exactement.
Ouais, 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 ouais. Merci infiniment Jean-Christophe Maisonneuve d'avoir brisé le tabou de la santé mentale dans l'entrepreneuriat. Et puis on retiendra que vous avez donc des ateliers
du pitch.
Pitch Academy, qui est certainement un must pour tous ceux qui veulent allier succès et sérénité. Vous en avez un prochainement ?
J'en fais régulièrement.
Oui.
J'en avais un hier.
Oui.
Mais j'en fais régulièrement. Et là, je lance surtout un accompagnement en ligne, hybride, qui permet à chaque entrepreneur d'avoir des vidéos, des exercices précis. Et puis, une session intensive, on va dire, de collective et un coaching individuel toutes les semaines, donc pendant 3 mois. Et ça, c'est mon dernier accompagnement qui fonctionne très bien.
Merci à vous.
Merci à vous.
Avant la dernière ligne droite de cette émission, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission dans laquelle je reçois aujourd'hui Nada Ghanem, Jean-Christophe Maisonneuve et Lionel Brochmann, alias Tsvika, président des éditions Compte-Goutte et compteur professionnel depuis près de 50 ans. Alors je l'ai dit en préambule, Compte-Goutte ne s'écrit pas du tout comme un compte-goutte, bête et méchant, mais compte comme un compte, C-O-N-T-E, et goutte comme goûter au plaisir de la lecture. Donc, on comprend tout de suite, Lionel, que vous êtes un amoureux des mots et puis des jeux de mots, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Oui. J'ai toujours fait ça. J'ai pu avoir des formations pour faire plaisir à mes parents, mais je n'ai gagné ma vie qu'en racontant des histoires.
Donc, comment devient-on conteur, puis président d'une maison d'édition?
Alors, comment on devient conteur, j'en sais strictement rien.
Oui,
ça a toujours
inné.
Été comme ça.
Oui.
J'ai toujours vécu de ça et gagné ma vie ainsi. Créer une maison d'édition, là, c'est sur ma fin de parcours, si je puis dire, hein, parce que j'écris de l'âge aujourd'hui. C'est après avoir édité chez les autres, vu la manière dont les choses se faisaient, d'avoir pris cette décision de créer une maison d'édition.
Donc, c'est pas simple de créer une maison d'édition.
Je crois que c'est la pure des sociétés qu'on puisse créer en France.
Oui. Et parce qu'il y a le fait de d'éditer, mais aussi tout le travail derrière, imprimer, distribuer.
À la limite, écrire, imprimer, c'est très simple. Choisir ce qu'on va faire, ça c'est autre chose. Ensuite, pour que ça puisse être distribué, c'est rentrer dans un secteur assez particulier où il faut d'abord avoir un diffuseur, puis un distributeur, et ensuite se retrouver alors en librairie.
C'est ça.
Et ce qui coûte énormément d'argent. Juste une petite information pour vous, vous saurez dorénavant que lorsque vous achetez un livre, vous donnez à la fois au libraire, au diffuseur et au distributeur 59% du prix du livre que vous avez.
Ah oui. Oui, donc c'est énorme.
C'est énorme.
Oui. Donc vous êtes un défenseur de la langue et de la grammaire. L'économie en direct, c'est donc une émission qui parle d'économie. Croyez-vous que la langue et la grammaire fassent partie aussi des enjeux économiques aujourd'hui ?
J'en sais strictement rien pour vous dire la vérité. Je me suis même pas posé la question. Ça a toujours été ainsi et toujours comme ça. Je pense qu'à entendre les gens, la plupart du temps, ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils disent ou alors leur pensée n'est pas exactement ce qu'ils ont formulé. C'est ce qui fait que souvent, ils peuvent être en désaccord après avoir cru être en accord. Sans compter que la plupart des gens, à l'heure d'aujourd'hui, alors que la pensée, le dictionnaire, la culture est à portée de tout le monde, on a l'impression qu'elle est encore plus éloignée que les autres et ils finissent toujours et souvent leurs phrases par « tu vois ce que je veux dire ». Ce à quoi je leur réponds « non, je vois pas ».
Oui, mais là, vous êtes en train d'apporter de l'eau au moulin de Nada et de Jean-Christophe à travers ces propos.
Oui, bien sûr, certainement. On travaille d'une manière différente sur des choses différentes. Moi, je suis devenu conteur parce que j'avais quelque chose à transmettre. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai travaillé sur la réécriture de certains contes traditionnels parce qu'ils étaient complètement détournés, que les gens pensent le connaître mais ne les connaissent pas. Et nous avons choisi une direction assez précise qui est le bilingue. C'est-à-dire que la plupart de nos livres sont écrits à la fois en français, alors français anglais, français créole, français portugais, français espagnol, bientôt français allemand ou français italien, et nous allons continuer ainsi de cette manière-là. Il y a donc cette série de contes traditionnels réécrits tels qu'ils étaient racontés à la campagne, je dis bien tels qu'ils étaient racontés à la campagne.
En tradition orale.
En tradition orale. Donc c'est écrit à la fois d'une manière orale et écrite, puisqu'elle est écrite sous forme de poésie. Donc ça peut être dit comme ça peut être lu. Et d'un autre côté, une série de contes que j'appelle des contemporains, en faisant encore à nouveau un jeu de mots. Il y a un conte sur la peur de la nuit, l'énurésie, l'anorexie, la peur d'être abandonné, le deuil, le divorce, etc. C'est donc d'utiliser ce même langage-là pour pouvoir parler de choses dites d'aujourd'hui alors qu'elles existaient déjà auparavant.
Jean-Christophe, ça pourrait être un outil pour vous.
C'est ces ça, contes. Sensibiliser les gens à toutes ces problématiques. Oui. Le conte me semble une très bonne idée pour sensibiliser tout le monde.
Alors, je disais justement tout à l'heure que j'ai découvert, moi, que la bibliothérapie était une thérapie pour se libérer justement de ces problèmes de santé mentale. Ça marche particulièrement bien en Angleterre, j'ai pu voir. Donc vous n'êtes pas complètement à 100% pour cette thérapie.
Et j'ai absolument pas ni de pour ni de contre sur toutes les thérapies. Ce que je sais, que lorsque je fais des explications symboliques d'un conte et qu'ensuite je donne les données utilisées par les différentes psychanalyses, je cite toutes les psychanalyses qui donnent leur avis là-dessus. Et ensuite, et seulement ensuite, on peut commencer à discuter et avoir un avis. On ne peut pas avoir un avis sur les choses en soi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller voir ce qui a été fait. Je n'en sais rien. Je crois que la première des choses à faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à lire aux gens. C'est la chose la plus importante. Puisque quelquefois, ils lisent un texte et vous leur demandez ce qu'ils ont lu, ils ne sont pas capables de nous le dire. Dans le meilleur des cas, ils arrivent à déchiffrer. Et ça, on le voit même 6e, 5e, 4e, 3e. Il n'y a qu'à voir, si un jour vous avez le malheur de voir une copie du bac en philosophie, je crois que on a de quoi tomber de haut.
On a des sueurs froides.
Il a même été dit qu'il était hors de question de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire, d'essayer de s'intéresser aux idées qui auraient pu être développées dans le texte fourni. Donc.
Et donc, votre avis là-dessus ?
Et donc, ça me fait très peur. C'est plus que de l'horreur, ça me fait extrêmement peur. Puisque de la même manière que on voit un développement de violence qui est faite, on voit une perte de la qualité et de la quantité de connaissances, alors qu'aujourd'hui elle est à notre portée. Et alors je sais plus tout à fait quoi penser.
Oui.
Mais je me pose pas la question, je continuerai quand même.
Oui, vous continuez. Pourquoi Tsvika?
Tsvika, c'est le nom qui m'a été donné quand j'étais petit en hébreu. Donc, et Tsvi, c'est en fait le cerf, l'animal dans la forêt. Et Tsvika, c'est le petit nom avec la petite consonance polonaise.
C'est ça. Oui.
Donc, je dis souvent que j'ai été l'inventeur de la tsvikanalyse des contes de fées.
Très bien. Et donc, vous avez commencé cette activité de conteur très tôt ?
Ça a été le seul et unique métier que j'ai jamais fait de toute ma vie. Je suis devenu conteur professionnel, c'est-à-dire que je n'ai vécu que de cela à l'âge de 22 ans, 23 ans.
Mais donc, c'est quoi un conteur professionnel ?
C'est un conteur qui va faire des spectacles ici et là et qui est payé pour faire des spectacles de conte.
Donc, dans des salles de spectacle
salles
ou
de
en
spectacle,
entreprise
bibliothèque, école. Ça m'est arrivé en entreprise, ça m'est arrivé aussi d'avoir des commandes pour la publicité, puisque j'ai fait la légende du téléphone Ola. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fameux téléphone qu'avait fait France Télécom à l'époque.
Oui.
Et donc, j'avais fait la fête d'Halloween et ils m'ont demandé d'écrire cette légende. Donc, j'ai me suis rapproché un peu de la publicité, mais je suis parti en courant.
C'était pas votre, c'était pas votre, votre préférence.
Voilà, à cause du contenu.
Oui.
Quoi
que
j'aurais pu bien gagner ma vie.
Oui,
mais
c'est
bon.
Ça. Oui, vous étiez attentif au contenu. Vous avez commencé avec quel conte, votre
alors, moi, j'ai
carrière
écouté,
de conteur?
Alors, je savais lire et pratiquement écrire en rentrant à l'école primaire, puisqu'il fallait absolument que j'apprenne à lire et à écrire à la maison. On vivait dans un 16 mètres carrés avec des toilettes sur le palier à Paris, à peine un coin cuisine, et on allait au bain-douche chaque semaine. Mais il fallait absolument que je sache lire et écrire avant de rentrer à l'école. Il y avait papa qui parlait surtout yiddish, maman aussi, un peu polonais, n'empêche que j'étais le premier à l'école et en français, et elle m'a donné l'amour de cette langue d'une manière absolue. Quoi.
Alors donc, vous avez commencé avec quel conte pour votre carrière ?
Alors il y avait les contes yiddish, après je me suis rapproché de la culture africaine, parce que j'ai eu la chance un jour d'avoir Sangor tombé dans un de mes festivals me disant « Tiens, voilà un conteur africain ». J'ai dit « Non, excusez-moi, je suis un conteur juif polonais ». Ça l'a fait mourir de rire, il n'y a pas de différence. Voilà, et c'est aussi là que j'ai vu qu'il n'y avait effectivement aucune différence selon les contes qui étaient racontés ici et là. Il y avait simplement, comme je disais tout à l'heure, la recette de cuisine et donc la géographie qui impliquait la recette de cuisine et le nom des personnages.
Vous dites des contes en yiddish, alors le yiddish c'est une langue vernaculaire ?
Alors le yiddish est une langue composée d'hébreu, quelquefois d'allemand, mais je dirais que c'est de l'hébreu conjugué au latin, en quelque sorte, puisque sa grammaire est latine, puisque la grammaire est allemande. Quoi. Elle était parlée en Pologne, elle était parlée en Russie, elle était parlée en Allemagne et donc en France.
Oui, mais elle n'est pas parlée par tout le monde. Donc, comment faisiez-vous pour vos contes?
Je l'ai compté en français.
Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, vous ne les racontiez pas.
Voilà. Il y avait quelques petites blagues yiddish qui étaient racontées de cette manière-là.
Elles sont souvent savoureuses.
Voilà, c'est ça. Comme on parlait tout à l'heure de certaines choses, vous savez, c'est l'homme qui vient voir le rabbin et qui lui dit, tu sais pas ce qui m'arrive tous les matins. D'habitude, lorsque je prépare mon petit déjeuner, je prépare ma tartine de schmal, c'est-à-dire de beurre, et je la fais tomber par terre. À chaque fois, elle tombe du côté du beurre. Et ce matin, miracle, elle est tombée de l'autre côté. Tu pourrais m'expliquer pourquoi? Et le rabbin dit, c'est pour ça que tu m'as réveillé à ce temps-là. Écoute, c'est que ce matin, tu l'as certainement beurré du mauvais côté.
Ah, très bien. Très, très bien. Svika, alors vous avez besoin de traducteurs, des traducteurs en allemand et en italien, pour développer des partenariats européens? Pour
c'est
quelle
ça.
Raison
c'est simplement que notre décision a été de faire tout en bilingue, absolument tout en bilingue. La difficulté lorsqu'on cherche un traducteur, c'est de trouver aussi un traducteur qui soit lui-même écrivain ou poète et qui utilise sa propre langue, à des fins artistiques ou poétiques. Il ne s'agit pas de trouver un traducteur de mode d'emploi ou de loi. Et d'où la difficulté d'en trouver un. Et comme on doit développer aussi bien, il nous manque l'italien, il nous manque l'allemand dans les langues européennes, on cherche absolument ces deux traducteurs-là.
Alors la tendance aujourd'hui est au numérique. Comment voyez-vous l'avenir des métiers comme le vôtre de la transmission ?
Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, la tendance est au numérique et l'augmentation de la vente des livres se fait grandement. En tous les cas, on le voit.
Donc, c'est une bonne nouvelle.
C'est bien sûr que c'est une très bonne nouvelle. Oui. On le voit quand on fait les grands salons. Cette année, on sera au Festival du Livre au Grand Palais au mois d'avril. Et je peux vous dire qu'il y a un nombre de gens absolument extraordinaires qui viennent.
Si vous deviez raconter l'économie de 2025 sous forme de conte, quelle serait la morale ?
Oi, oi, oi. La morale, ça pourrait être... je sais pas.
On peut faire mieux.
De toute façon, on peut toujours faire mieux sans se faire du mal, par contre. Ouais. Mais je sais pas s'il faut se poser la question. Je pense qu'il faut y aller.
Oui, il faut y aller. Oui, c'est ce que disait, ce que disaient Nada et Jean-Christophe.
Ce sera toujours du temps perdu de se poser la question de savoir si on doit faire. Il faut y aller, il faut expérimenter, quitte à se tromper, à échouer. On recommencera.
Alors, pour trouver vos comptes dans votre maison d'édition, que faut-il faire, Lionel?
Alors, d'aujourd'hui, il y a le site, www.comptegoutte.fr, .comptegoutte.fr. Sinon, on est toutes les semaines à faire des salons ou des ventes dans les hypermarchés, par exemple, aussi.
Oui, oui.
Ça nous permet de toucher un public qui n'aurait pas acheté de livres. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et quelques salons, et je vous dis, cette année, on sera au Grand Salon à Paris et ça va développer et d'une manière européenne et les grands salons à la suite. Quoi.
Par an, vous éditez combien de livres?
Par an, on édite à peu près 8 livres.
8 livres?
Oui, on en est au 12e à l'heure actuelle, donc on est relativement récent. Mais ce sera cette tendance-là. Après, on verra, puisque plus ça va, plus on doit imprimer un livre à un nombre d'exemplaires important, ce qui implique qu'on peut en éditer un peu moins. Voilà.
Merci infiniment, Lionel Brochmann, alias Fika, de nous avoir rappelé que les mots ont un pouvoir à la fois de paix et puis aussi de meilleure santé mentale. On peut le dire.
Alors, je ferai juste une petite remarque, puisque tout à l'heure, vous parliez tous de la paix.
Oui.
Dans ma langue, le mot paix, c'est shalom.
Oui.
Shalom qui veut dire, qui vient de shalem. Shalem qui veut dire être entier.
Ah, très bien. Ben, merci pour cette belle traduction. Merci, Lionel. Merci, Tsvika. Merci à tous les trois pour ces échanges riches qui démontrent que l'économie ne se résume pas qu'à des chiffres ou des stratégies. Il nous reste encore quelques minutes pour un mot de conclusion. Je commence avec vous, Nada, pour ce mot de conclusion.
Merci beaucoup. Merci pour les deux interventions. Ça fait totalement écho au Rotary, aussi bien la santé mentale que l'éducation. Ça m'émeut vraiment énormément et je me dis que on est tous ensemble dans le même bateau et dans la même direction. Et j'ai envie de conclure avec cette phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
C'est vrai.
Et à mes camarades, pourquoi ne nous rejoignez pas au Rotary, on vous attend, vous avez toute votre place pour construire ensemble.
Merci beaucoup.
Oui, je trouve qu'en effet, vous pourriez vraiment vous adjoindre ces deux personnes dans votre club, elles seraient précieuses.
Exactement.
Merci Nada. Jean-Christophe, Maison Neuve.
Oui, dans le même optique, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour progresser, pour apprendre, pour mieux se connaître. Et moi, pour le coup, la phrase qui me plaît, c'est le mantra des All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise. Chacun sa référence. Et qui dit « être meilleur ne s'arrête jamais
». Voilà. Très bien. Bon, je le note aussi, « être meilleur ne s'arrête jamais ». Très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
Merci.
Tsvika, le mot de la fin est pour vous.
Alors, c'est à moi. Comme j'ai eu un petit peu moins de temps, je dirais que là, on va sortir bientôt des mangas sur l'apprentissage de la grammaire. Et c'est juste pour rappeler à tous les gens qui nous écoutent, tous ceux qui ont peur de ce qu'est la grammaire, que le mot grimoire, qui est le journal des magiciens et des sorciers, et le mot grammaire, font partie tous les deux de la même famille. Sans la grammaire, on ne pourrait pas envisager ce qui n'est pas encore. Sans la grammaire, on ne pourrait pas se rappeler de ce qui n'est plus. Et il y a un temps particulièrement extraordinaire dans ces temps qui est l'imparfait, qui généralement débute l'ensemble des contes, parce que justement il est imparfait et qu'on peut le parfaire.
Ah oui, donc il était une fois... Merci infiniment, c'est très très poétique. Alors je conseille à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent que si la prochaine étape était de réintroduire un peu de poésie, hein, de sérénité ou de dialogue dans son propre projet. Merci infiniment à tous les trois. Merci d'avoir été les invités en direct sur IDFM Radio. Merci aussi à vous, chères auditrices, auditeurs, pour votre attention. Merci, Francky, pour la technique et pour le temps bien géré. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve mardi dès 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Et puis, je fais quand même un petit message, puisque ce soir, à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains, IDFM Radio vous attend, nombreuses et nombreux, pour son Halloween party à partir de 18h30. Venez en famille, tous déguisés, on s'occupe du reste avec des distributions de bonbons, une musique endiablée, la chanteuse Clara Viola, le groupe le Slow Rock, des artisans locaux, Nature et Cacao, Cosmétanche, Saku Saku, Croco Libre, un stand de maquillage pour les enfants, une diseuse de bonne aventure et bien sûr une buvette avec des produits faits maison. Donc voilà, on vous attend très très nombreux. À tout à l'heure.
IDFM Radio vous invite à sa Halloween Party, vendredi 31 octobre, de 18h30 à 23h. Rendez-vous à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains avec vos plus beaux déguisements pour une soirée dansante endiablée. Sur scène, les artistes Clara Viola et le groupe Slow Rock. Distribution de bonbons, DJ, tombola, diseuse de bonne aventure, les contes qui font peur et bien d'autres surprises. 7€ l'entrée sur place et 5€ via Hello Asso. Gratuit pour les mineurs, accompagné d'un adulte. Halloween Party, vendredi 31 octobre, à partir de 18h30, avec IDFM Radio, à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains.
Happy Halloween avec IDFM Radio.